militaire ou l'absolutisme d'un seul politique. Et donc c'est vrai qu'il y a, il y a toujours cette volonté d'utiliser la minorité sexuelle pour servir un projet réactionnaire contre les idées des Lumières, contre les libertés, et donc au final réinstaurer un régime où l'identité a, a supplanté l'altérité.
Et s'il y a des réactions dans la salle, c'est le moment ou jamais de s'emparer du micro si quelqu'un veut interagir avec le plateau. N'hésitez surtout pas, signalez-vous. Didier, vous souhaitiez intervenir ?
Oui, juste un petit complément de par rapport à ce que vient de dire effectivement Benjamin. Ça m'a fait penser à ça, l'utilisation effectivement de la différence pour dans une société qui cherche l'uniformisation et la violence pour l'imposer. Ce qui s'est passé aussi récemment en France au moment du vote de la loi sur le mariage pour tous, donc en 2013-2014, ce sont deux années records en France au niveau des statistiques officielles, et on sait qu'elles sont très incomplètes. C'était deux années records de violence contre les communautés homosexuelles et LGBT. Donc ça voulait bien dire effectivement que les gens qui se retrouvaient contre le mariage pour tous et entre guillemets manifestaient encore plus de violence pour essayer d'imposer leur point de vue effectivement. Bon, depuis les violences se sont relativement calmées, pour autant la situation n'est absolument pas satisfaisante en termes de respect des droits, ça, on sera tous d'accord là-dessus.
C'est peut-être aussi que ça légitime peut-être les auteurs de ces violences aussi dans leurs actes en fait. Ils se sont peut-être légitimés par la sensation d'avoir des gens qui suivent cette idée aussi.
C'est ça.
Pas forcément multiplier le nombre de personnes qui passent à l'acte violent, mais c'est en tout cas ça légitime.
Ça fait beaucoup de mal hein, quand des idées réactionnaires progressent, hein, quand des personnalités influentes sont aux portes du pouvoir ou en tout cas ont de l'influence, quand justement que ce soit effectivement la manif pour tous, ça ouvre la boîte de Pandore. À partir de là, toutes les vieilles haines qui n'étaient pas totalement ensevelies resurgissent, hein. Et c'est pour ça que la lutte contre l'homophobie elle doit être universelle, parce que finalement il n'y a pas de pays vacciné contre ça. Il n'y a pas même aux États-Unis. Les États-Unis, à San Francisco, on peut se balader très facilement. Il y a des communautés gays qui sont bien représentées. Et on a l'impression que dans certaines villes des États-Unis, c'est assez ouvert. Mais ça cache finalement que derrière ces grandes métropoles assez ouvertes et tolérantes, il y a quand même. Pourquoi les gens vont dans ces grandes métropoles ? Parce que dans le reste du territoire, l'homophobie n'a pas disparu, bien au contraire. Je voyais qu'un collégien aux États-Unis entend en moyenne 26 insultes homophobes par jour. Et donc ça provoque des effets de violence terribles. Il y a quand même la plupart. Des tentatives de suicide, 30% sont le fait d'adolescents qui sont plutôt de positionnement de minorité sexuelle.
Et avec cette histoire aussi d'insultes homophobes, parfois c'est rentré aussi dans ce qu'on appellerait le truc ordinaire, quoi, finalement, le quotidien. Parfois même, certaines personnes qui profèrent ces insultes homophobes, si on les interpelle et qu'on dit attention, là c'est clairement une insulte homophobe, auront parfois des difficultés à reconnaître réellement le caractère homophobe ou raciste ou autre, hein, d'ailleurs, d'une insulte. En fait, il y a des choses qui sont passées un peu dans le courant, quoi. Ça se fait, c'est pas... C'est le genre de choses, voilà, la banalisation, c'est le mot que je cherchais.
C'est la banalisation d'un certain nombre de préjugés, d'un certain nombre de stéréotypes. Ça touche finalement les questions liées au genre. Très clairement, hein, les identités masculines et féminines ne sont pas des acquis, sont des constructions culturelles. Et c'est vrai qu'on a beaucoup dû faire bouger. Ces dernières 25-30 ans, on a beaucoup fait bouger la construction des identités masculines et féminines. Et quand il y avait... et c'était rassurant, si vous voulez. Je pense que dans la société des années 50, c'était rassurant de savoir qu'on était, on était assigné à une identité de genre. Comme on était homme, on devait être comme ça. Et être un homme, c'était être comme ça. Et quand on était femme, on était comme ça. Et là, on voit bien que ça craque de partout. C'est-à-dire que ce qu'est être un homme, ça a été redéfini, ce qu'est être une femme, c'est totalement redéfini. Et par rapport à ça, avoir une sexualité c'est également totalement redéfini. Puisque la notion de genre est en train d'être redéfinie, eh bien forcément, on redéfinit ce qui est censé être la masculinité, ce qui est censé être la féminité. Ça fait rebattre les cartes nécessairement sur les relations au sein d'un couple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les couples ne sont pas forcément des couples de sexe différent. Ça peut être des couples de même sexe. Ça va avec l'évolution des mentalités sur le fait qu'on a une construction identitaire du genre qui évolue. Et évidemment, ça entraîne tellement de remises en question sur ce qu'on croyait être évident que ça génère des peurs. Et je crois qu'une grande partie de l'homophobie, c'est très bien résumé, c'est la peur de l'homosexualité, parce que la peur de quelque chose qui est autre, qui va peut-être remettre en cause chacun d'entre nous. Si on est à l'aise avec son hétérosexualité, pas de problème. Si on est à l'aise avec son homosexualité, pas de problème. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se pensaient hétérosexuels parce que c'était comme ça, et puis qui se rendent compte que finalement c'est pas si évident que ça. On a le droit de choisir. Et ça fait peur. Et souvent d'ailleurs, vous voyez que les gens qui sont hétérosexuels assumés, en général ils n'ont pas de problème avec les homosexuels. Et les gens qui sont dans le rejet, c'est peut-être un peu des gens qui se cherchent.
En tout cas, il y a un questionnement en la matière. Oui. Avant de conclure, Monsieur Caton, vous aviez pris 2-3 notes, c'était peut-être pour les partager avec nous. non, mais c'est intéressant, hein, on profite. J'ai bien vu que vous aviez pris des notes.
Oui, j'ai pris des notes, mais bon, encore une fois, ça peut paraître tout ça un petit peu compliqué, mais le problème, c'est le problème de l'identité. Tout simplement, accepter de vivre en se disant qu'on peut être plusieurs choses, qu'on peut être différent, qu'on peut être continuellement différent, qu'on n'a pas une identité fixe, que c'est pas parce qu'on est né ici ou parce qu'on a tel désir ou tel autre désir que cela doit nous définir à jamais. C'est ce qui définit la liberté. C'est ce qui définit cette possibilité-là de liberté. Or, les hommes ont besoin de se sentir être ceci ou être cela. De se croire telle ou telle identité, de se dire qu'ils sont des hommes. Alors, s'ils sont des hommes et qu'ils fréquentent des homosexuels, c'est peut-être que ce ne sont pas tout à fait des hommes. Et si c'est des femmes qui sont ceci ou cela, c'est peut-être pas tout à fait des femmes, etc. etc. Le problème se situe précisément, mais dans toute la culture occidentale, et encore une fois, je ne voudrais pas aller trop loin, dans la question de l'être. Être ceci ou cela. Voilà. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Lévinas, qui a dit que l'éthique commence par justement l'altérité. Au moment où on ne s'interroge pas sur ce qui est, sur l'être, mais sur ce rapport qu'on a à l'altérité. Voilà. Et à ce moment-là, c'en est fini de cette question-là d'identité sexuelle ou d'identité ceci ou d'identité cela.
Oui, c'est vrai qu'on ne parle plus d'identité à partir de là, vu qu'on prend sous le prisme du rapport à l'autre.
Voilà, c'est quelque chose qui est, malgré tout, omniprésent chez les êtres humains et très très fort. Voilà.
Une prise de parole peut-être dans la salle. Vous aurez encore l'occasion, rassurez-vous, mais nous allons avancer parce que nous avons déjà pris du retard. Mais c'est bien de prendre du retard aussi. Hein. Ça fait pas de mal, n'est-ce pas, Vinci ?
Absolument pas. Bon, vous remercions, Monsieur Gatin, Monsieur Gaudret. Alors, pour le moment, nous allons écouter...
Alors, pour y intervenir à tout moment, oui. Hein, comme les autres ont pu le faire à un autre moment, bien entendu.
Nous allons maintenant écouter un micro-trottoir fait par les jeunes de l'antenne jeune, pour le coup, sur toujours le thème des minorités sexuelles.
Si je vous dis minorité sexuelle ou LGBTI, vous pensez à quoi ?
Gay.
Les gens, les jeunes, les plus jeunes, non ? Qui au niveau sexuel.
Tout ce qui est gay, bi, tout ce genre-là, tout ce qui est transsexuel, ce qui recycle un peu, ce qui englobe un peu tout ça. Hein.
Rien du tout, ouais. Franchement.
Les gays, les lesbiens... Le transgenre.
Aucune idée.
Et vous savez ce que c'est ?
Alors le deuxième non, pas du tout.
Sexe. Quelque chose de normal.
Quelle est votre position à ce sujet ?
Je suis gay.
Pour moi clairement, je m'en fiche de ce qu'ils font. Enfin personnellement, tant qu'ils sont heureux, amoureux, pas battus, rien du tout.
Neutre.
Moi je trouve ça intéressant justement qu'il y ait de tout. Enfin c'est humain. Enfin.
Moi, ça me dérange pas du tout. Chacun vit sa vie comme il veut. Du moment qu'ils sont heureux, c'est le principal.
Hétéro, mais c'est normal.
Moi, je m'en fous un peu, en fait.
Ok.
Vraiment.
Pourquoi pas ?
Ça m'intéresse pas.
Je suis neutre. Enfin, j'ai pas vraiment de combat, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Je suis très neutre sur le sujet.
Je suis un peu pour la liberté, mais ça dépend à quel âge.
Oh.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Partie d'émission, nous retrouvons Monsieur Cocteau. Mais avant, c'était Alf Lady de Christine and the Queen.
Et nous sommes toujours en direct, en live et en public du lycée Aristide Briand, quand même, dans le CDI même.
Sur Principe Actif.
102.4 FM.
Alors, Monsieur Cocteau, vous faites partie du CIDFF, Centre International d'Information des Familles.
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles.
Voilà.
De l'heure. Parce qu'il y a rien dans tous les départements.
Alors, pouvez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il ?
Alors, mon métier, c'est juriste. Donc, moi, je reçois des gens qui ont des problèmes de droit sur des lieux de permanence juridique. Notamment en maison de justice, point d'accès au droit, un peu partout dans le département. Donc les gens viennent nous voir principalement pour tout ce qui est séparation, divorce, les affaires familiales, droit des étrangers, harcèlement au travail, ces choses-là. Et concernant le thème d'aujourd'hui, finalement la population LGBT, on la voit pas beaucoup. Sur ces dernières années, finalement, j'ai eu une adoption de l'enfant du conjoint dans un couple lesbien. Mais c'est tout, en fait. j'en vois quasiment pas. Par contre, parce que aussi, il faut le souligner, je crois que ça n'a pas été dit, parce que la personne compétente pour traiter de tout ce qui est discrimination par rapport à la population LGBT, c'est le défenseur des droits aussi. Et ça, c'est important de le rappeler, qui se trouve à la préfecture et qui a des lieux de permanence, notamment en maison de justice à Louviers ou ailleurs.
Moi, je me demande aussi si au bout d'un moment, par les luttes pour l'acquisition des droits, et notamment des droits LGBT, finalement, ne s'est pas organisé, et finalement, dispose aussi des ressources en termes d'accompagnement et de droits spécifiques à des problématiques spécifiques. Je pose la question, là, bêtement, où finalement, quand ce sont des questions d'accès aux droits familiaux, et notamment pour les couples LGBT, de manière générale, est-ce que finalement, il n'y a pas d'autre circuit que le circuit plus classique, en fait?
Je sais pas.
Vous savez pas. D'accord, bon, c'est une question sans réponse.
Non, je te dirais que... Non, les maisons de justice, elles sont connues, les points d'accès aux droits, c'est connu aussi... Après, bon, le mariage, bon, maintenant, c'est acté depuis 2013, le mariage pour tous, donc bon, c'est bien ancré. On en a parlé depuis le début de l'émission, il y a eu une évolution des droits. Je pense qu'une date clé, quand même, à part la dépénalisation de l'homosexualité, tout ça, je pense que c'est surtout la loi sur le PACS de 99, qui nous a quand même évité une condamnation auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, en ce moment, ça chauffe un petit peu pour l'Italie, justement, parce que je crois qu'ils doivent mettre en place une forme de PACS. Après, le mariage pour tous, c'était pas juridiquement une obligation. On n'était pas pressé par la Cour européenne des droits de l'homme pour le faire, mais on l'a fait. Finalement, les prochains combats pour les LGBT, ça sera la PMA. Procréation médicalement assistée, la grossesse pour autrui aussi, ça fait partie des évolutions à mon avis futures.
Voilà, déjà, qui étaient déjà induites par le changement de situation, de statut, par la loi. Ouais. Donc, notamment, c'était déjà induit, en tout cas, ça faisait partie des.
Et là, on a parlé récemment sur les dons sanguins des homosexuels aussi, où on leur demande un an d'abstinence.
Actuellement.
Oui, où il y aurait. Même si c'est pas, je crois que le Conseil d'État a dit qu'il n'y avait pas de discrimination, mais on n'est pas sous le même régime entre les homosexuels et les hétérosexuels. Où je crois que sur les hétéros, il faut 4 mois où il faut juste avoir un seul partenaire et pas. Voilà. Donc là, bon, pour le Conseil d'État, c'est pas une discrimination. Mais bon. Donc voilà, mais bon, en France, on a quand même, ça a bien évolué. Hein. Dans d'autres pays, l'homosexualité, c'est la peine de mort. Hein. Ou la prison, hein. Donc, et là, je crois, dans l'actualité, il y avait un accord entre Israël et la Russie où les couples israéliens, on leur interdirait, un couple homosexuel israélien, on lui interdirait d'adopter un enfant russe. Donc, parce que la Russie, on sait très bien qu'ils aiment pas trop les homosexuels. Enfin, le gouvernement, en tout cas.
Là, ça veut dire qu'on arrive à un point de discrimination ultime. Ça veut dire qu'on rajoute des surcouches à la discrimination, là.
Il y a des États, de toute façon, l'homosexualité est très mal vue. Hein. Et ce qui m'a fait sourire pour le mariage pour tous en 2013, c'est qu'en général, les religions, que ce soit la religion catholique, l'islam, religion juive, ils s'entendent pas. Enfin, il y a toujours des différences, voilà. Là, ils étaient tous d'accord pour dire on veut pas du mariage pour tous, quoi.
Voilà. Ouais. Comme quoi, il a fallu ça pour qu'ils se mettent d'accord.
Ben oui. Donc voilà, mais ça évolue. Alors après, bon, moi, comme je vous disais, j'ai des permanences juridiques. À côté de ça, je fais quand même des collectifs. Et là, les collectifs, c'est auprès de jeunes du collège, lycée. Demain, je suis à l'EPID à Val-de-Reuil. Enfin, voilà. Par contre, là, on a un gros problème parce que on voit quand même, comme vous disiez tout à l'heure, une banalisation des injures à caractère homophobe. Pour eux, ils voient pas le problème, quoi. Et c'est tout le temps, avec les stéréotypes qui vont avec. Très souvent, des fois, il y a homosexuel égale pédophile. Enfin, on a des raccourcis. Enfin, c'est hallucinant.
Oui, il y a des raccourcis en plus qui se font assez rapidement. Une intervention dans la salle, peut-être. Je vois avec le micro, hein, donc je suis obligé de présumer de ça.
Bah, je pense qu'il y en aura deux, tu prendras après moi.
D'accord, alors bien dans le micro.
Ok, là.
C'est parfait.
Ok, j'aimerais juste savoir, vous dites qu'en Israël, vous pouvez, enfin, des couples homosexuels peuvent pas adopter en Russie. Sauf que en fait c'est ça partout dans le monde, c'est extrêmement compliqué d'adopter. Je reviendrai sur ce sujet après. Mais pourquoi vous spécialisez exactement en Israël alors que
non, c'est parce que j'ai regardé Google Actualité et que justement c'était un des sujets d'actualité tout simplement.
Okay.
Comme les discriminations par rapport à Harvard, l'école qui fait de la discrimination envers des Américains d'origine asiatique. Là, c'est l'actualité du moment, c'est pour ça.
Ok, je reviendrai sur le sujet après, à la fin, c'est ça.
Avec plaisir.
Voilà, je reviendrai après.
Mais c'est sûr que l'adoption, c'est pas évident. Ouais.
Ah non, carrément. C'est pas évident. Bah, je te passe le micro.
C'était pour remonter sur cette idée de banalisation des stéréotypes, tout ça. Ça va même, on a atteint un point où ça va au-delà des injures, c'est vraiment dans le quotidien, même avec, enfin moi en tant que homosexuel, avec mes amis, j'entends beaucoup de blagues, c'est pas méchant, mais enfin, on sourit, mais ça fait mal, genre c'est pas, c'est que ça atteint un point où c'est banal, du fait de, enfin, je saurais pas comment vous expliquer, mais être gay, de nos jours, ça se voit un peu comme une mode, entre guillemets, si je puis dire. On n'évalue pas à quel point, enfin, en tout cas, les gens qui font ces allusions, ils n'évaluent pas à quel point ça peut être discriminatoire.
Mmh.
Et on l'appréhende comme une chose tout à fait banale, ce qui n'a pas lieu d'être.
Et des fois, mais c'est d'une extrême violence, parce que des fois les jeunes, je leur pose la question, et si dans quelques années, tu as un enfant qui lui-même est homosexuel, et bien si je le tue, c'est incroyable, incroyable, j'espère qu'ils vont prendre un petit peu du plomb dans, enfin qu'ils vont réfléchir un petit peu, mais c'est vraiment d'une extrême violence, carrément.
Mais à la limite, pour rebondir avec ce dont vous témoignez, j'ai la sensation presque, ce qui aurait de plus difficile à appréhender, peut-être plus difficile à supporter, n'est pas tant à la limite cette remarque qui est criante de bêtises presque. C'est finalement ça, on y prêterait presque moins d'attention que finalement cette blague, même de l'entourage, qui peut venir de l'entourage, qui serait juste quelque chose d'ordinaire. Et j'ai la sensation que finalement, il est plus difficile presque de se débarrasser de ces remarques ordinaires. De ces choses qui peuvent même venir de l'entourage, du coup sans méchanceté en tout cas annoncée, et qui finalement sont peut-être plus douloureuses que ce type de remarque qui finalement, face à ce type de remarque finalement, presque ce serait peut-être moins préoccupant.
On pourrait même parler d'homophobie passive en quelque sorte.
Oui, c'est ça, une espèce d'homophobie passive qui serait peut-être plus insinueuse, plus difficile à.
Plus tenace et plus douloureuse. Donc, pour la communauté LGBT en tout cas.
Très bien, voilà, non, c'était juste sur cet élément. Effectivement, le langage courant, enfin, les blagues, comme le signalait le jeune homme là en témoignage, là, effectivement, les blagues, c'est une blague, ça peut pas faire de mal, blague, c'est drôle.
Mais le problème, en fait, c'est que c'est tout le temps.
Bah voilà, c'est ça.
C'est tout le temps. Et après, on est même sur les clichés avec le pull rose. Ah, t'as un pull rose, t'es homosexuel. Ce qui fait sourire, parce qu'au Moyen-Âge, la couleur c'était des chevaliers, ils mettaient du rouge pâle et les filles c'était du bleu, donc c'était inversé. Donc voilà, mais on est sur des clichés comme ça. Et pour une anecdote d'ailleurs, au 115, mais c'est pas sur Évreux, c'est ailleurs, je dirais pas le lieu, on avait un homosexuel qui portait un pull rose. Pas de problème. Mais après, les autres du 115, mettez des couleurs, les gars, mettez du rose. Ah, ils voulaient pas. Ils voulaient surtout pas. Parce que là, c'était. Alors, nous, dans les écoles, on travaille justement sur les couleurs. Ou le rose, vous avez des équipes de foot, de rugby. Le Stade français en rugby met du rose. Enfin, voilà, c'est une rose, c'est pas. Ça veut rien dire. Ou par exemple sur la parentalité, on a des. Je vais parler de mon beau-frère, tiens. Lui, il a un fils, très jeune, il veut surtout pas qu'il joue à la poupée. Sinon, il va devenir homosexuel.
C'est aussi les représentations de la société qui ont été renvoyées, dont on est héritier nous-mêmes d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des choses très récentes. C'est toutes ces représentations de société qui ne sont pas toujours faciles à faire avancer.
Carrément, hein. Mais bon, après, il faut casser les stéréotypes, quoi.
Didier Rio, vous souhaitiez intervenir.
Oui, j'avais une double question pour Monsieur Cocheteux par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous disiez au début qu'il y avait effectivement peu de gens qui s'adressaient au CIDFF pour comme étant victime de violence LGBT, homosexuelle ou LGBT? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'en fait il y a toujours une crainte que ça se sache, enfin, effectivement que ces gens-là n'osent pas trop faire la démarche pour des raisons effectivement de représailles après coup, entre guillemets? Ça c'était ma première question. Si vous avez une idée de la réponse par rapport à cette question. Et la deuxième chose, c'est que effectivement vous parliez de casser les stéréotypes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamentalement important. C'est aussi un peu pourquoi on est venu ici au lycée parler de ce sujet-là. Qu'est-ce que le CIDFF ou d'autres organismes, hein, mais bon, par rapport à ce que vous connaissez le mieux, ont comme action ou envisagent comme action ou pourraient faire comme action pour effectivement essayer de casser tous ces stéréotypes, y compris les plus primaires dont vous venez de parler.
Alors, par rapport au public qu'on reçoit, ben principalement, ce sont des adultes. Donc, c'est les parents. Donc, les jeunes, nous, on les touche que lors des collectifs. Donc, nous quand on discute avec les jeunes, là, on constate des choses. Voilà. Mais après, on leur rappelle le cadre de la loi, que une injure raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe, une injure publique, c'est 1 an de prison, 45 000 euros d'amende, une injure non publique, c'est 1 500 euros maximum. Après, le souci, enfin ça c'est mon avis, hein, je vais peut-être pas me faire des amis, mais la loi elle est super sévère, elle existe. Prenons une violence dans un couple ou une ex, c'est 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Mais avez-vous vu quelqu'un aller en prison pour une gifle? Voilà. Donc la loi, on a le cadre, mais après, il faut qu'il y ait sanction. Et un jeune, si on lui pose le cadre, mais qu'il n'y a pas de sanction, il s'en fiche du cadre. Voilà. Bon, après, je ne veux pas passer pour... Voilà, mais...
Non, non, mais c'est
important, le cadre de la loi.
C'est ce qui est encouru, en fait, comme pour chacune des peines, hein, c'est ce qui est encouru, et en fait, c'est au tribunal d'adapter la peine en fonction d'une
appréciation. On a aussi un souci, c'est la preuve. Et oui. Bon, après, dans une classe, il faut aussi que les autres se manifestent, hein, et qu'ils se bougent. Faut que ça remonte, quoi. Faut pas que ça reste au sein de la classe. Faut aussi que le professeur soit au courant et qu'il y ait des choses de faites. Dans la rue, voilà. Hein. C'est difficile au niveau de la preuve. Mais bon.
C'est toute la différence justement entre ce qu'on encourt, ce qu'on peut, et puis comment au tribunal, parce que le tribunal c'est l'appréciation, hein, finalement.
Enfin, ben oui, je dis pas de, preuves,
si je dis pas de bêtises.
Pas...
Oui, puis c'est l'appréciation, c'est-à-dire qu'il y a toutes les circonstances, il y a tous les éléments, il y a tout quoi, finalement, qui rentre en ligne de compte pour avoir la peine avec un maximum que vous avez évoqué un instant. Une nouvelle intervention
de Samy.
Dans le public.
Je voulais rebondir par rapport à ce que vous aviez dit sur justement ces histoires dans les établissements au collège, lycée. Moi, il m'est arrivé au collège, en tout cas, d'avoir des conflits par rapport à ça, d'en parler à des professeurs, des représentants d'État, et de m'être retrouvé seul, totalement seul, une porte fermée, enfin, à plusieurs reprises, plusieurs années, enfin, toute ma vie, si je puis dire. Et vous dites que la loi encadre, protège, mais si même ses représentants sont pas capables de l'appliquer, je pense que la loi elle-même justifie un petit peu, enfin, justifie, non, comment dire, permet. Ça permet,
mais tu sais, c'est vrai que là on parle de la loi, mais en soi, si au niveau du local, sans que ça aille au tribunal, il y a une réaction, déjà, qu'on reprenne les personnes, non, tu peux pas dire ça, ben déjà, c'est le début, je pense. On reprend la personne, tu as eu des propos qui sont inadmissibles, enfin, et ça, c'est le boulot des personnes qui sont encadrantes.
Je trouve ça un petit peu ridicule de l'homophobie publique. De taper sur les doigts d'un élève et puis c'est tout. Franchement, je trouve ça. Moi, ça me choque. Moi, ça me chiffonne de. Ce que vous dites, genre, c'est... pour moi, c'est grave. Ça n'a pas lieu d'être. Et ça ne devrait pas être excusable par un sermon ou des choses comme ça.
Après, c'est sûr que c'est une infraction pénale. Et une infraction pénale, par définition, c'est un trouble à l'ordre public. Donc, il doit y avoir sanction.
Mais le problème, c'est qu'on n'a même pas parfois le minimum. On n'a même rien du tout. Ce que tu disais. Donc.
Ça, ouais, une intervention peut-être, là pour le coup, les professeurs du lycée. Et
après, faut pas généraliser, hein, attention.
Monsieur Gaudret, vous souhaitiez compléter, oui. Intervenir, tout en tout cas. Oui, ben,